Il est 8h.
I want you to know that the movement we started is only just beginning.
Le mouvement que nous avons lancé n'est qu'un début, affirme Donald Trump dans ses adieux vidéo aux Américains. Au terme d'une présidence tempétueuse, le sortant, boudeur, ne sera même pas à Washington au moment où son successeur prêtera serment. Et même ses plus fidèles le lâchent pour la dernière journée de son mandat. Joe Biden, lui, a une priorité immédiate, soigner le pays au sens propre comme au figuré.
Je suis vraiment honoré d'être votre prochain président et commandant en chef, et je serai toujours un fier enfant de l'État du Delaware.
Entre pandémie et polarisation à l'extrême de la société américaine, on jettera un coup d'œil au programme des premiers jours du 46e président. En France, c'est un confinement comme celui de l'automne qui est en train d'être échafaudé au sein de l'exécutif. École ouverte, mais tour de vis nécessaire face à la menace du variant anglais du virus. Et puis le gentleman cambrioleur vole au secours des libraires. 60 000 exemplaires d'Arsène Lupin réimprimés grâce au succès de la série sur Netflix.
Juste après ce journal, les États-Unis, toujours un nouveau président. Tout à l'heure, ce matin, on tourne la page de 4 années de Trump à la Maison-Blanche aussi. Invité exceptionnel, John Bolton, ex-conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump. Il répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On pourrait dire que le moment est historique tous les 4 ans. L'investiture, le 20 janvier, d'un nouveau président américain. Mais il y a quelque chose de différent aujourd'hui. Puisque pour la première fois depuis 152 ans, celui qui quitte le pouvoir n'assistera pas à l'investiture de son successeur.
Bonjour Xavier Yvon.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Normalement, le cérémonial est très codifié, attendu. Le sortant et le nouveau président se rencontrent à la Maison Blanche, puis prennent une voiture ensemble jusqu'au lieu de l'investiture. Rien de tout cela cette fois. Alors dites-nous ce que va faire Donald Trump de sa journée.
Alors là, il est en train de passer sa dernière nuit à la Maison Blanche. Il est 2h du matin ici. Il quittera les lieux tôt dans la matinée. Donald Trump a orchestré sa sortie. Il va voler une dernière fois à bord d'Air Force One pour aller s'installer en Floride, dans sa luxueuse villa de Mar-a-Lago. Il a demandé qu'on lui organise une cérémonie d'adieu en grande pompe sur le tarmac, avec tapis rouge, fanfare et salut militaire, le tout devant une foule de partisans et de collaborateurs que son équipe semble avoir du mal à rassembler. Des invitations ont été envoyées à d'anciens conseillers qui se sont empressés de dire publiquement qu'ils ne viendraient pas. Même le vice-président Mike Pence, si fidèle pendant 4 ans, a décliné. C'est donc un Donald Trump isolé, lâché de toutes parts, qui arrivera en fin de matinée en Floride. Et à midi, heure de la côte Est, 18h en France, il redeviendra un simple citoyen, puisqu'à ce moment-là, Joe Biden, lui, sera en train de prêter serment à Washington.
Donc si je résume, on va avoir simultanément un président en Floride, l'autre à Washington. Et ça, Xavier, ça crée quelques complications.
Exactement, surtout pour le transfert de la fameuse valise nucléaire, vous savez, qui accompagne un président américain partout pour qu'il puisse ordonner une frappe si nécessaire. La bouderie de Donald Trump s'est transformée en casse-tête pour le Pentagone. Il y aura donc 2 valises nucléaires aujourd'hui. La première s'envolera avec Donald Trump pour la Floride, puisqu'à cette heure-là, il sera encore le président en exercice détenteur du pouvoir nucléaire. La deuxième valise attend Joe Biden à Washington. Et à midi, les codes de Donald Trump pour utiliser cette valise seront désactivés. Ceux de Joe Biden, eux, deviendront opérationnels. Il sera alors le nouveau commandant en chef des États-Unis.
Alors, un tout petit peu moins stratégique que la question de l'arme nucléaire, quoique ça reste de l'ordre du casse-tête, Xavier. Il y a aussi un sujet immobilier ce matin. Il faut gérer un déménagement.
Oui, à chaque fois, c'est un sprint pour le personnel de la Maison Blanche qui a quelques heures pour tout faire. D'abord, vider les affaires du président sortant et de sa famille. Il y a notamment l'énorme simulateur de golf que Donald Trump a fait installer dans une pièce de la Maison Blanche. Et puis ensuite, il faut déballer les affaires des nouveaux entrants. Quand ils arriveront, Jill et Joe Biden trouveront leurs vêtements bien accrochés dans les penderies. Puis il faut aussi tout nettoyer. Et en ces temps de pandémie, la Maison Blanche va être désinfectée de fond en comble, d'autant qu'elle a été un foyer d'infection. Donald Trump et son équipe n'étaient pas très vigilants sur les gestes barrières. Certains conseillers de Joe Biden, inquiets, ont même suggéré que le nouveau président attende un peu avant d'emménager à la Maison Blanche.
Merci Xavier Yvon, en direct de Washington pour Europe 1.
Où l'on retrouve aussi Sonia Dridi. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Quelles seront les priorités de Joe Biden une fois installé dans le bureau ovale ?
Eh bien, le plus urgent pour Joe Biden, c'est de lutter contre la pandémie hors de contrôle dans le pays. Il veut aller vite et va signer dès cet après-midi toute une série de décrets. Il veut notamment rendre obligatoire le port du masque dans tous les bâtiments fédéraux et pour les voyages entre États. Il a promis 100 millions de vaccinations en 100 jours et la mise en place d'un protocole sanitaire strict pour rouvrir les écoles. À peine arrivé à Washington hier soir, il a participé à une commémoration pour les 400 000 victimes du Covid aux États-Unis. Il s'est exprimé ému depuis le majestueux Lincoln Memorial.
To heal Pour guérir, nous devons nous souvenir. Et c'est difficile parfois de se souvenir. Mais c'est comme cela que l'on guérit. C'est important de le faire en tant que nation.
Plus généralement, Joe Biden veut réparer les dégâts de son prédécesseur et pour cela, il va détricoter un certain nombre de mesures. Il devrait annoncer très vite la fin du Muslim Ban qui interdit l'entrée sur le territoire américain aux ressortissants de plusieurs pays musulmans et l'arrêt de la construction du mur entre les États-Unis et le Mexique. En ce qui concerne l'économie, il a déjà annoncé un plan de relance de 1900 milliards de dollars qui devra lui être approuvé par le Congrès. Au niveau international, sa première mesure sera de rejoindre l'accord de Paris sur le climat.
Alors ce matin, quel est l'état d'esprit de Joe Biden, Sonia ?
Alors on sait déjà que le thème de son discours d'investiture sera axé autour de l'unité nationale. Ce sera son grand défi, réconcilier les Américains. Lui qui a passé des dizaines d'années à faire des compromis avec les Républicains au Sénat est catastrophé de voir un pays aujourd'hui si divisé. Il est pressé de marquer sa différence de ton et de style avec Donald Trump. Joe Biden, dont la vie a été marquée par de nombreuses tragédies, a fait de l'empathie sa marque de fabrique. Il va tenter d'apaiser une Amérique qu'il ne reconnaît plus.
Sonia Dridi, l'une de nos journalistes, l'une de nos envoyées spéciaux à Washington pour suivre cette investiture à 18h ce soir, heure de Paris, pile à l'heure du 18-20 de Julien Bugier sur Europe 1.
Ça tombe bien. Sonia Dridi le disait, priorité pandémie pour Joe Biden. Et chez nous, en France, le nombre de malades du Covid soignés en réanimation est en train de remonter. Des équipes de chercheurs à l'Institut Pasteur comme à l'INSERM tentent de modéliser la trajectoire du variant anglais.
Au matin d'un nouveau conseil de défense sanitaire, on a besoin d'un point de situation avec nos spécialistes. Anne Le Gall pour la santé, Louis Dragnel pour la politique. Bonjour à tous les deux. Anne Le Gall, on est vraiment dans une course contre la montre.
Exactement, ce variant britannique est plus contagieux, donc plus il va se répandre dans la population, plus il va faire grimper les courbes épidémiques. Et ça risque d'arriver très vite. Dans leur modélisation, les chercheurs de l'INSERM s'attendent à ce que le variant britannique devienne dominant entre fin février et mi-mars, avec un pic d'hospitalisation qui pourrait atteindre celui de la première vague du printemps. Mais précisons que ce modèle ne prend pas en compte l'impact de la vaccination. Les projections de l'Institut Pasteur, elles, montrent que la vaccination devrait permettre de réduire de 20 à 40% ce pic à l'hôpital, mais cet impact de la vaccination dépendra du moment où l'épidémie s'accélère. Plus c'est tard, mieux c'est. Chaque semaine est bonne à prendre, explique Simon Cauchemez, qui a dirigé les travaux de l'Institut Pasteur. Or, en réalité, nous avons très peu de marge de manœuvre, à part les restrictions sociales.
Alors, je retiens ce que vous nous dites, Anne. Chaque semaine est bonne à prendre. Merci, Anne Le Gall.
Alors, avec cette évolution de l'épidémie, Louis Dragnel, le gouvernement réfléchit déjà très concrètement à un nouveau confinement.
Oui, c'est même une réflexion très avancée puisque selon plusieurs sources gouvernementales, la question n'est plus de savoir si nous allons ou non être reconfinés, mais quand. Anne Le Gall vient de nous le dire, les projections ne sont pas bonnes. Donc, s'il ne se produit pas une baisse très sensible des contaminations dans les prochains jours, eh bien le gouvernement n'aura pas d'autre choix. C'est la solution la plus efficace pour reprendre le contrôle de l'épidémie. Alors, est-ce que ce sera un reconfinement général et national ou des reconfinements locaux ? Il est trop tôt pour le dire, mais plusieurs conseillers ministériels nous disent que le gouvernement pourrait l'annoncer la semaine prochaine et qu'il pourrait être instauré à la fin du mois. Dernière précision, selon plusieurs sources, c'est un troisième confinement qui devrait ressembler à celui du mois de novembre. Autrement dit, avec le retour des attestations pour sortir de chez soi, des dérogations pour travailler et surtout des écoles qui devraient rester ouvertes.
On va donc vers un confinement hivernal à la sauce automnale. Les informations de Louis Dragnel du service politique d'Europe 1.
Vous restez bien avec nous dans un tout petit instant, une poule aux d'or pour Netflix, mais aussi pour les libraires.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 8h11, la suite du journal, François Geffrier.
On en avait parlé ici le jour de sa sortie, la série Lupin, diffusée depuis un peu moins de 2 semaines sur Netflix avec Omar Sy. C'est pas parce que l'acteur fait aujourd'hui ses 43 ans qu'on va en parler, mais parce que cette série tournée en français va battre le démarrage de la Casa des Papel, carton absolu, une série hispanophone. Selon les prédictions de Netflix, Lupin aura atteint les 70 millions de visionnages dans le monde en moins d'un mois.
Et qui a dit que la télé nuisait gravement à la santé du livre ? Sûrement pas Nicolas Caro, notre spécialiste littérature, qui nous explique que les ventes d'Arsène Lupin version bouquin explosent.
Gentleman cambrioleur, c'est le surnom du héros, mais c'est aussi le titre du recueil de nouvelles publié en 1907 à l'occasion de la série Hachette Roman a réédité les aventures d'Arsène Lupin et le livre s'est immédiatement classé en tête des meilleures ventes d'Amazon et Fnac. 60 000 exemplaires ont été réimprimés si on compte le format au livre de poche. Les ventes ont bondi, la maison d'édition se tenait prête pourtant avant l'arrivée de la série, mais Béatrice Duval, la directrice générale du livre de poche, ne s'attendait quand même pas à un tel succès.
Je dois dire qu'on a été un peu dépassé par l'ampleur du phénomène de cette série formidable et on a vendu, pour vous donner un ordre d'idée, en 15 jours, on a vendu la totalité des exemplaires qu'on vend normalement sur une année. Donc on réimprime à toute vitesse, il faut 2 ou 3 jours pour que les livres soient réimprimés et donc ils sont tous en librairie et tous disponibles.
Belle opération puisque l'œuvre de Maurice Leblanc est tombée dans le domaine public depuis 2012 et les livres font par ailleurs partie des prescriptions de lecture au collège. Arsène Lupin a encore réalisé un très beau hold.
Gentleman cambrioleur.
Ça, c'était ce que chantait Jacques Dutronc dans les années 70.
Et juste pour revenir à Netflix, d'un mot, il y a ces chiffres annoncés par la plateforme il y a quelques heures seulement. Elle compte désormais 204 millions d'abonnés payants dans le monde.
Et elle en a gagné 37 millions en un an. Merci le confinement.
François Geffrier, le journal de 8h. Merci beaucoup, François. Il est 8h13. Vous êtes sur Europe 1 et nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Alors mon invité Mathieu, il a été conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump. John Bolton, c'est un républicain vraiment pur jus. Avant d'être limogé par Trump, il a passé 453 jours au cœur du dispositif trumpien à la Maison Blanche, qu'il a depuis dénoncé dans ses mémoires. Mais ce n'est pas pour autant que ce conservateur donne un blanc-seing à Joe Biden. Loin de là, son entretien à suivre.
À tout de suite sur Europe 1.